Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Le M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter le cessez-le-feu. C'est l'injonction des États-Unis réitérée après la prise de Massissi-Centre le week-end dernier. Ceci est contenu dans un communiqué du département d'État des États-Unis publié hier mardi. Affaire de transfèrement des centaines de présumés criminels de Kinshasa vers les prisons de haute sécurité en province. Amnesty International s'est dit consterné dans un communiqué hier. Cette ONG internationale dit craindre des exécutions massives imminentes de la part des autorités en raison du manque d'informations fiables sur le statut des personnes condamnées à mort. Et puis, traque des bandits urbains à Kinshasa. Au moins 276 condamnés en l'espace d'un mois devant les cours et tribunaux sur plus de 2500 interpellés. Information livrée hier à Radio Okapi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les États-Unis condamnent les violations éhontées du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l'ONU. Les avancées continues du M23, notamment la prise de Massissi-Centre le week-end dernier, entravent les initiatives visant à parvenir à une paix négociée dans l'est de la RDC et nuisent aux civils dans la région et les déplacent, indique le communiqué du département d'État des États-Unis publié hier mardi. D'autres détails avec vous, Gisèle Cage.
Le M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter le cessez-le-feu. Nous réitérons l'appel que nous lançons depuis longtemps au Rwanda à retirer immédiatement de la RDC l'ensemble du personnel et des équipements de la force de défense rwandaise, insiste le communiqué. Pour mettre fin aux conflits et aux souffrances, il est essentiel que la RDC et le Rwanda respectent leurs engagements à l'égard du processus de Luanda sous la médiation de l'Angola et veillent à ce que les mécanismes de vérification ad hoc renforcés soient opérationnels. Pour sa part, le gouvernement de la République d'Angola exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade du conflit et à la conquête illégale des territoires en République démocratique du Congo, constituant également une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, comme le stipule l'acte constitutionnel de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies, indique un communiqué.
Entre-temps, sur le terrain des affrontements au nord Kivu, l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, ont repris hier le contrôle de l'agglomération de Ngungu dans le groupement Oufamandu Ier, territoire de Masisi. C'est à l'issue des combats qui les ont opposés toute la journée aux rebelles du M23 qui occupaient la zone depuis environ un an. Selon les sources coutumières locales, hier, c'était le troisième jour des combats contre cette rébellion soutenue par le Rwanda sur cet axe allant de Numbi jusqu'à Ngungu dans le Oufamandu. Jusque tard hier, des tirs se faisaient encore entendre dans cette partie de la chefferie des Baoundé en territoire de Masisi. Rappelons que d'autres violents combats opposant l'armée aux rebelles du M23 ont été rapportés entre 4h et 6h du matin hier autour de la cité de Sake, toujours dans le Masisi. Par ailleurs, la coordination provinciale de la société civile Force Vive exprime ses inquiétudes face à l'avancée de la rébellion du M23 dans les territoires de Masisi et Walikale. Dans une déclaration rendue publique hier, cette structure estime que cette avancée expose non seulement l'intégrité du territoire national à une violation, mais aussi la population du Nord Kivu à des crimes atroces. Le président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive appelle le gouvernement congolais à ne plus se laisser distraire par des pourparlers ou l'hypocrisie. John Banyene, dans ses propos recueillis par Bernard Nyangi.
Laisser le M23 RDF AFC s'emparer du chef-lieu du territoire de Masisi pose un doute sérieux sur la sincérité du gouvernement congolais et la communauté internationale à trouver une solution durable à l'agression de la RDC par le Rwanda. Et le gouvernant de la République démocratique du Congo, pourtant prévenu à maintes reprises par la société civile, ne devrait pas se laisser distraire par des pourparlers où l'hypocrisie est conçue comme mode de travail, mais plus de se concentrer résolument à la réorganisation technique et tactique du système de défense et de sécurité. Avec la prise du chef-lieu du territoire de Masisi, les velléités du M23 RDF s'orienterait vers les territoires de Walikale, riches en ressources minières, susceptibles de servir à renforcer les moyens pour poursuivre avec la guerre vers d'autres destinations en République démocratique du Congo.
Pour sa part, la nouvelle dynamique de la société civile congolaise vient d'initier une campagne de portée nationale avec comme objectif de soutenir les FARDC au front pour gagner la guerre d'agression contre la RDC. La campagne est intitulée « Congolais, lève-toi et sauve ton pays ». Le président national de la nouvelle dynamique de la société civile congolaise, Jean Chrysostome Kijana, projette cette campagne dans toutes les 26 provinces. Il le dit au micro de Jean Kassami.
Pour nous, il est inadmissible que cette guerre continue à être considérée comme une guerre de l'Est de la RDC au lieu d'être perçue comme une guerre de la République démocratique du Congo. Nous voudrions attirer l'attention des autres compatriotes. Le Congo doit rester un et indivisible. Les Congolais, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, Mulumba, Mswahili ou Mungala, nous sommes un même peuple et nous devons développer et garder cette unité nationale qui fait notre fierté et nous comptons sur l'adhésion de toutes les couches sociales parce que à travers cette campagne, nous voulons aussi battre les rappels à l'unité. Et nous avons un message aussi à l'endroit des politiques, c'est de dire aux politiques que quand la case brille, ils doivent apprendre à mettre de côté leur guéguerre politique et se ranger en ordre utile pour que nous puissions faire face à l'agression et à la balkanisation. Même l'armée la plus puissante du monde ne gagne jamais de guerre sans l'accompagnement, sans le soutien de sa population.
Le président de la République démocratique du Congo doit stopper l'exécution massive de plus de 170 personnes. L'alerte est de l'ONG Amnesty International dans un communiqué de presse publié hier. Selon cette ONG, le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, avait annoncé le 5 janvier dernier que plus de 170 personnes soupçonnées d'être liées à des gangs criminels appelés Kuluna avaient été transférées de la capitale Kinshasa vers la prison d'Angenga dans le nord-ouest du pays pour y être exécutées. Grâce à Mzati.
Pour la directrice adjointe du programme Afrique de l'Est et Afrique australe d'Amnesty International, l'annonce de ces transferts des prisons est absolument consternante. Elle dit craindre des exécutions massives imminentes de la part des autorités en raison du manque d'informations fiables sur les statuts des personnes condamnées à mort. Le président Félix Tshisekedi doit immédiatement, publiquement et sans ambiguïté mettre un terme à tout projet d'exécution des personnes dans la prison d'Angenga ou ailleurs. Le Parlement devrait adopter un moratoire sur les exécutions en attendant l'abolition totale de la peine de mort, déclare-t-elle. Amnesty International appelle également les autorités congolaises à mettre un terme aux transferts massifs vers des prisons éloignées, notamment celle d'Angenga, où des dizaines de détenus sont déjà morts de faim et de maladies, indique les communiqués. Cependant, lors d'un briefing de presse avec son collègue de communication et médias lundi à Kinshasa, le ministre de la Justice a balayé d'un revers de la main cette information selon laquelle il aurait envoyé une vague d'inciviques dans d'autres provinces du pays pour qu'ils soient exécutés.
La cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au second degré, a ouvert mardi 7 janvier des audiences publiques en chambre foraine dans la ville de Beni. Au total, 23 dossiers, dont deux en continuation, sont inscrits à l'extrait de rôle pour cette chambre foraine. Ils portent notamment sur les préventions de viols, vols à main armée, attentats, violations des consignes ou encore des dissipations des munitions. Hier, la cour militaire a procédé à l'instruction des dossiers après l'identification des prévenus, Marc Maroufi. Fimbo nous en dit plus.
Au total, 23 prévenus parmi lesquels 17 civils, dont 2 femmes et 6 soldats des FARDC, sont poursuivis par l'auditorat militaire et le ministère public pour diverses infractions. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis couvrent la période allant de 2021 à 2025. Pour les 2 prévenus dont les affaires sont en continuation, le ministère public les poursuit pour participation à un mouvement insurrectionnel, outrage à l'armée et participation à une entreprise de démoralisation de l'armée. C'est le cas notamment de maître Christian Uteke Udong, avocat au barreau de Bounia dans la province de l'Ituri. Il a été arrêté par l'auditorat militaire de la garnison de Beni en 2024. 3 autres prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs et meurtres commis pour faciliter le vol à main armée. La cour militaire rendra son verdict sous peu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les médecins membres du syndicat national des médecins Sinamed dans la province du Maïndombe sont depuis quelques semaines en grève. C'est pour respecter le mot d'ordre lancé au niveau national. Pour l'instant, seuls des cas des urgences sont pris en charge. Dans une interview, Dr Moussa Kaponi, secrétaire exécutif provincial du Sinamed Maïndombe, dénonce le non-alignement à la prime de risque des médecins de cette province au quatrième trimestre de l'année 2024. Dr Moussa Kaponi explique au micro de Irène Boma.
Dans les Maïndombe, nous qui sommes du Sinamed, nous observons scrupuleusement ce mot d'ordre qui a été donné par le niveau national. Nous sommes en grève. Nous avons les services minimums, c'est-à-dire polarisation des urgences. On ne reçoit que les urgences au niveau des hôpitaux de référence. Nous sommes en train de revendiquer nos droits qui sont légitimes. Imaginez par exemple au niveau de notre province, aucun médecin n'a été aligné dans l'alignement des nouveaux médecins. Sur les 26 provinces, 25 provinces ont des médecins alignés, mais les Maïndombe se retrouvent avec zéro médecin aligné. À la prime des risques, ils créent des doublons dans d'autres provinces pour que toute une province se retrouve sans médecin aligné. Au T4, les listings ont été publiés, mais toute une province se retrouve sans médecin aligné. Allez-y comprendre. Nous demandons à nos confrères de respecter les mots d'ordre du syndicat des médecins. Le syndicat ne fait que se battre pour le bien-être de tout médecin. Ce sont les engagements qui ont été signés entre le gouvernement et les bancs syndicales, et tout ce que nous demandons, c'est la pure et simple application de ces engagements. Ici, au niveau de l'hôpital, nous ne recevons que les urgences. Les soins de routine, les consultations normales, là, on ne les prend pas en charge.
Direction la province du Maniema. Les sinistrés de la pluie du week-end dernier sont exposés aux maladies, surtout les enfants de moins de 5 ans, rapportent des sources médicales. Certaines familles, ne sachant pas où aller, passent nuit à la Belle Étoile ou chez les voisins dans des conditions difficiles. Ces sinistrés éparpillés dans les 3 communes de la ville de Kindu appellent à l'aide les autorités, les humanitaires et les hommes de bonne volonté. Florence Kizalunga a visité le quartier Basoko, bloc Salama, dans la commune de Kasuku, où vivent certains de ces sinistrés. Voici son reportage.
La coordination de la protection civile parle de plus de 2000 ménages affectés par cette catastrophe naturelle. Solange Kiamé, mère de famille, désemparée, ne sait par où commencer.
Je suis dehors avec mes enfants. Je ne sais quoi faire. Jusque là, je n'ai pas d'aide. Je suis logée par les voisins. Vraiment, que le gouvernement passe à nous.
De son côté, Bienvenue Vumbi redoute le pire pour la santé des enfants.
J'ai été aussi victime d'une voie violente de ce vendredi. Pendant cette période pluviale, les enfants sont exposés dans toutes sortes d'intempéries. C'est pourquoi, comme on est nombreux, nous demandons l'aide au niveau provincial qu'est national.
Non loin de là, Ibrahim Bin Mahongo Rajab essaie de rassembler les peu de biens qui lui restent de sa maison pour tenter de reprendre la vie normale.
Maintenant, je suis en train d'arranger des tôles ainsi que des chevreaux et madriers. Nous sommes tentés de passer nuit dehors. Les enfants dorment sous les bâches, moi je reste à l'extérieur. Vraiment, nous sommes en train de passer les moments très difficiles.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Lutte contre la fraude minière en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé hier à Kinshasa une réunion interministérielle qui a réuni son collègue de la Défense, celui des hydrocarbures, ainsi que celui des mines, afin d'examiner cette question épineuse de la présence irrégulière des étrangers et des hommes en uniforme et en armes dans les sites miniers. Selon notre source, à l'issue de cette rencontre, le ministre des Mines a été instruit de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin notamment de barrer la route à la fraude et à la contrebande minière. Toutefois, cette commission indépendante n'émet pas à l'écart la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'Inspection générale des mines, deux structures de ce ministère qui luttent contre la fraude minière, précise la même source. Kasaï Central, la route nationale numéro 1 entre Chikapa Kamwisha vers le village Mukenge-Bidwaya est menacée d'être coupée par une tête d'érosion, alerte le député national Théodore Kazadi. Cet élu l'a déclaré après avoir visité ce tronçon. Selon lui, cette ligne en construction par la société arabe Contractor doit relier Kananga et Chikapa jusqu'à Kinshasa. Théodore Kazadi sollicite une solution rapide pour arrêter l'érosion. On l'écoute.
J'ai constaté dans le village Mukenga-Biloya un grand ravin qui menace la pluie. Et s'il n'y a pas une intervention urgente, donc il n'y aura plus de passage sur l'axe Chikapa-Tamouche. J'étais informé depuis Kinshasa, je ne suis pas resté indifférent. J'avais déjà pris contact avec le gouverneur de province. Avec lui, nous avons saisi l'office des routes ainsi que le Foner. Mais étant descendu sur le terrain, je vois que la situation est plus pire. Il faut qu'on accentue notre plaidoyer auprès de services de l'État pour qu'une intervention rapide soit faite, sinon on va regretter.
Actualité internationale. Les tensions entre le Mali et l'Algérie s'intensifient après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Dans un communiqué, Bamako accuse également Alger de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Des propos intervenus alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité.
L'invité.
En l'espace d'un mois, au moins 276 bandits urbains ont été condamnés devant les cours et tribunaux sur plus de 2500 interpellés. C'est dans le cadre de l'opération Ndobo ou Hameçon à Kinshasa. Invité de Radio Kapi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, livre ses statistiques dans un entretien accordé à Blaise Ndongala Maenda.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle évaluation faites-vous de l'opération Ndobo lancé depuis le 6 décembre dernier?
Une évaluation plus ou moins positive. Je ne dirais pas qu'on a atteint l'objectif, parce qu'il y a encore du travail à faire, mais après des mois, à travers les différentes opérations, le commissariat provincial de la ville de Kinshasa a mené dans les différentes communes, la prise que nous avons eue en termes de membres de groupes, de gangs du banditisme urbain que nous avons pu mettre la main dessus, plus de 2000, 500, et les nombres des audiences foraines, les condamnations, l'impact sur la population aussi, le retour, parce que nous avons différents services qui nous permettent d'avoir aussi non seulement les statistiques, mais les appréhensions de l'opinion, l'état sécuritaire de différentes communes, parce qu'il s'agit de la ville de Kinshasa ici principalement. Je peux dire que c'est plus ou moins satisfaisant, mais nous restons concentrés sur le travail. Nous sommes en phase d'évaluation de cette première étape, pour nous permettre de nous rassurer d'abord de tout ce qui a déjà été fait, d'accentuer pour sécuriser davantage la ville de Kinshasa et nos populations. Encore que nous sommes engagés à dupliquer cette opération dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo, principalement Lubumbashi, Matadi, Goma, Kikwit, Mbandaka, qui sont déjà plus ou moins identifiés, mais nous attendons des retours des commissaires provinciaux de ces différentes provinces pour savoir comment nous allons opérer avec eux.
Sur plus de 2500 gangs interpellés, combien ont déjà été condamnés?
Nous sommes à 276 condamnés devant les cours et tribunaux, que ce soit les juridictions civiles ou militaires. 127 personnes ont été transférées dans des prisons de haute sécurité. 149 sont en transit à Makala et 2301 personnes se retrouvent encore en détention préventive. Donc d'autres ont été relaxés parce qu'il n'y avait pas de charge qui les concernait après leur arrestation. Ils se sont sûrement trouvés malheureusement dans le mauvais milieu où la police était en train d'opérer face au banditisme urbain.
Monsieur le ministre, vous êtes le patron de la territoriale, le patron de la police. Que répondez-vous à ceux qui reprochent à la police des interventions tardives chaque fois quand on l'appelle?
Tout à fait normal, une personne en insécurité aura toujours des plaintes, mais je crois que notre police fait un effort significatif. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous sommes en pleine opération de renforcement de notre police. Parce que c'est une police aussi qui a besoin d'être renforcée en termes de moyens opérationnels, mobilité, matériel de travail, mais aussi formation. Donc là, je peux rassurer nos populations qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour permettre à ce que la République démocratique du Congo soit dotée d'une police mieux qualifiée, mieux encadrée. Et nous allons très bientôt, ici au courant de l'année 2025, lancer des grandes opérations de recrutement. Nous intéressons notre jeunesse, la jeunesse congolaise, à venir s'intéresser à ce domaine sécuritaire dont le pays a grandement besoin de ses filles et fils. La police congolaise a d'énormes capacités, mais c'est vrai qu'elle a aussi besoin d'énormes attentions, de la part du gouvernement. Et c'est le travail que le ministère de l'Intérieur est en train de faire, apporter à ce service, qui est un service extrêmement important sur le premier pilier de la sécurité du territoire et de nos populations. Il est important que notre gouvernement lui donne toute l'attention, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Nous allons terminer par les phénomènes Ubuntu qui s'étend maintenant de l'espace Grand Bandundu vers le Congo central. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour mettre fin à ces phénomènes?
Aujourd'hui, nous avons identifié suffisamment la problématique qui est non seulement d'ordre politique, mais aussi d'ordre socio-économique. Il va falloir maintenant qu'à travers la politique de conciliation communautaire mise en place par le gouvernement, que nous puissions enclencher un processus définitif qui va permettre à ce que nous puissions résoudre.
Monsieur le ministre, les plaisirs étaient les nôtres de vous avoir dans ces studios de Radio Kapi.
Un plaisir partagé. Merci de m'avoir invité à cette grande radio.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.